Le journal Cécile Bidot.
Bonjour. Sans une minute de retard, les sanctions américaines sur l'Iran ont été mises en place à 6h01 ce matin. Des sanctions qui menacent également les entreprises françaises qui travaillent dans le pays. Alors l'Union européenne sort un bouclier plus symbolique qu'économique. Dossier complet dans un instant. C'est l'équivalent de la superficie de Los Angeles qui est en flammes. La Californie connaît actuellement le plus important incendie de son histoire. Nous irons sur place. Une information France Inter. La mairie de Paris n'en a pas fini avec le roi des forains. Après avoir été interdit de Champs-Élysées l'an dernier, le marché de Noël de Marcel Campion sera installé cette année au Jardin des Tuileries, sans l'accord d'Anne Hidalgo, mais avec apparemment de solides appuis au gouvernement.
L'invité du grand entretien de la matinale, à partir de 8h20, l'historien de la République. Professeur de sciences politiques Jean Garrigue. Un an de pouvoir Macron à l'Élysée, un an pour les marcheurs à l'Assemblée, leurs forces et leurs faiblesses, une opposition ou des oppositions, les 60 ans de la 5e République. Le standard est ouvert, vos questions au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Comme un baroud d'honneur, la canicule est à son apogée aujourd'hui en France. Demain, on perd 10 degrés. Les agriculteurs et leurs bêtes souffrent de cette chaleur. Reportage en Mayenne. Kevin Mayer veut être à la hauteur de son statut de favori au championnat d'Europe d'athlétisme à Berlin. Le décathlonien français entame ce matin sa série de 10 épreuves.
France Inter.
L'Europe déploie ce matin son bouclier face aux sanctions contre l'Iran mises en place unilatéralement il y a 2 heures par les États-Unis. On en parlait hier, ces sanctions touchent directement l'économie iranienne, mais elles ont des conséquences sur les entreprises qui travaillent dans le pays. Elles aussi risquent d'être sanctionnées. Alors la Commission européenne ressort sa loi de blocage, créée en 1996 pour éviter les sanctions décidées par les États-Unis déjà contre Cuba, la Libye et l'Iran. Elle a été légèrement remaniée et elles permettent aux entreprises européennes de contourner l'obstacle. Ça, c'est la théorie, Maxime Deps.
Sur le papier, les sociétés européennes, y compris les nôtres françaises, pourront décider de rester en Iran sans risquer, à première vue, de sanctions financières de la part des Américains. Deux volets en cela dans le texte. Le premier annule les effets en Europe de toute décision de justice qui serait prononcée contre ces entreprises aux États-Unis. Le second ouvre la voie à une possible indemnisation au cas où. Mathias Audi est professeur de droit des affaires à la Sorbonne.
Il permet à une entreprise européenne qui aurait été affectée par des sanctions américaines de demander une indemnisation en fait correspondant au montant de l'amende infligée.
Problème dans pareil cas, si la situation se présente, qui indemnisera les États-Unis? Certainement pas, ce professeur n'y croit pas une seconde. Même scepticisme du côté du patronat. François Asselin dirige la CPME qui représente les intérêts des petites et moyennes entreprises.
Le contre-feu de l'Union européenne nous permet d'avoir un paravent pour se protéger contre la poursuite des tribunaux américains, mais vous savez, ce paravent est bien fragile par rapport à l'impérialisme américain. Et si jamais vous avez besoin du dollar pour commercer, eh bien c'est ça qui va dicter ce que vous devez faire ou pas.
Et face à la menace du billet vert, que feront justement les PME ayant franchi le pas en Iran au cours de ces derniers mois? Pour l'heure, bon nombre d'entre elles sont en vacances. La question se posera en septembre. Et s'il faut les assister à ce moment-là sur la CPME, alors on les assistera.
Une question que nous avons posée à l'une de ces petites entreprises. Moviel 1830 exporte ses ustensiles de cuisine en Iran depuis plusieurs années. Elle est basée à Villedieu-les-Poêles dans le département de la Manche. La présidente Valérie Le Guerne-Gilbert s'inquiète des conséquences du comportement de l'administration américaine et elle est sceptique sur la protection que peut lui offrir l'Union européenne.
Un homme comme Trump actuellement fait des choses et il n'y a rien en face. Étant totalement apolitique, puisque là, on parle de règles globales du marché mondial, on sent bien que l'Europe fait rien, quoi. Je veux dire, y a rien. La situation actuelle que nous a mentionné notre client iranien, c'est que là, ils ne peuvent vraiment plus rien faire. C'est-à-dire que là, ils peuvent même pas sortir de l'argent et ni importer des produits, quoi. C'est très compliqué. C'était une commande ou deux par an, mais là, la commande dont je parle, oui, il y avait quand même 50 000 euros, oui.
La patronne de la société Moviel 1830 avec Anthony Rimbaud de France Bleu Cotentin. Donald Trump continue d'ailleurs de brouiller les pistes des sanctions qui étranglent l'économie iranienne d'un côté, des propositions de négociation de l'autre. Le président américain s'est dit ouvert à un accord global avec Téhéran. Des propos jugés insensés par le président iranien Hassan Rouhani qui parle de guerre psychologique. Le Canada réagit publiquement à la crise qui l'oppose à l'Arabie Saoudite depuis 2 jours. La ministre des Affaires étrangères étrangère canadienne affirme que son pays défendra toujours les droits humains. Hier, le Royaume a brutalement ordonné l'expulsion de l'ambassadeur du Canada à Riyad et le gel des relations commerciales entre les deux pays. Une décision prise après un tweet de l'ambassade canadienne qui se disait préoccupée par une nouvelle vague d'arrestations de militants des droits de l'homme en Arabie Saoudite. La fermeté canadienne a encore fait monter le ton d'un cran. Riyad suspend les bourses universitaires pour les Saoudiens qui étudient au Canada et annonce leur transfert vers d'autres pays. Détail à suivre après ce journal dans la chronique géopolitique d'Anthony Bélanger.
8h05, France Inter, la suite du journal, Cécile Bideau. Aux États-Unis, la Californie fait face au pire incendie de son histoire.
Le nord de l'État est touché par deux foyers qui ont déjà ravagé 110 000 hectares, soit l'équivalent de la superficie d'une ville comme Los Angeles. Cet incendie, baptisé Mendocino Complex, s'ajoute à une quinzaine d'autres brasiers. 14 000 pompiers sont mobilisés. Correspondance en Californie de Loïc Piala.
Il ne lui a fallu qu'une dizaine de jours pour devenir l'incendie le plus important de toute l'histoire de la Californie, une histoire pourtant très riche dans ce domaine. Le Mendocino Complex Fire bat un record établi il y a 8 mois seulement par le Thomas Fire. 4 des 5 incendies les plus graves du Golden State ont eu lieu après 2012, mais jamais encore un feu de cette ampleur n'avait commencé aussi tôt dans la saison. La Californie a dépensé en un mois le quart de son budget annuel consacré à la lutte contre les incendies. La longue sécheresse a fait de la végétation un carburant idéal pour les flammes, entretenu par des vents forts et des températures élevées. Le même schéma se reproduit désormais tous les étés. Pour le gouverneur Jerry Brown, la situation s'explique par le réchauffement climatique, pas pour Donald Trump. Le président américain a mis en cause sur Twitter la gestion de l'eau par les autorités locales. Un porte-parole des pompiers californiens a dû expliquer publiquement que l'eau n'avait rien à voir avec le comportement de ces incendies toujours plus imprévisibles. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Simone Gbagbo va sortir de prison. La dame de fer de la Côte d'Ivoire vient d'être amnistiée par le président Alassane Ouattara. Simone Gbagbo est incarcérée depuis 7 ans après la défaite électorale de son mari Laurent Gbagbo et les affrontements sanglants qui ont suivi, faisant 3000 morts entre 2010 et 2011. Elle avait été condamnée à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Bangladesh, des manifestations pacifiques d'étudiants sont violemment réprimées par le régime. Cela fait 8 jours que les étudiants se mobilisent pour réclamer une meilleure sécurité sur les routes. Les manifestations ont commencé après la mort de deux jeunes tués par un bus. Les étudiants ont envahi les rues de la capitale, Dhaka, pour freiner la circulation particulièrement dangereuse et réaliser leur propre contrôle routier. Mais dans sa gestion de la crise, le gouvernement a franchi la ligne rouge. Reportage de Sébastien Farcy.
La ruelle est étroite. Sur cette vidéo, des policiers armés tirent sur des étudiants retranchés derrière un muret. Depuis samedi, la capitale bangladaise est en ébullition et les étudiants sont pourchassés dans les campus universitaires, comme le raconte l'un d'entre eux qui veut rester anonyme.
Un de mes amis vient d'être touché par deux balles en caoutchouc dans le dos. Il a eu le dos en sang. Dans le quartier des universités, les policiers ont attaqué les manifestants avec du gaz lacrymogène et des balles réelles. Ils tiraient avec des revolvers.
Au Bangladesh, plus de 4000 piétons ont été tués par des automobilistes l'année dernière, soit une augmentation de 25% en un an. Cela a poussé ces étudiants à réaliser leur propre contrôle routier et ils auraient ainsi trouvé des adolescents de 16 ans au volant de camions. Le gouvernement a proposé hier une loi qui punirait de 5 ans de prison tout conducteur responsable de blessures, mais cela n'est pas assez, explique cet étudiant.
Les deux jeunes qui ont été tués la semaine dernière étaient à côté du trottoir et le conducteur de bus les a renversés car ils dépassaient un autre bus. Ça, c'est un meurtre de sang-froid pour moi.
Au cœur des manifestations, le gouvernement a arrêté un journaliste et des responsables d'une association de sécurité routière, ce qui a encore plus déchaîné la colère des manifestants. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
La police locale parle uniquement de 12 blessés, dont un photographe d'une agence de presse étrangère. Le nouveau président colombien prend officiellement ses fonctions. Iván Duque est investi aujourd'hui à Bogota. Homme de peu d'expérience, issu des rangs de la droite dure, il succède à Juan Manuel Dos Santos. Il prend le pouvoir alors que la paix avec la guérilla des FARC signée avec son prédécesseur et qu'il veut remettre à plat est encore fragile. Et à un moment de tension avec son voisin vénézuélien après la tentative d'attentat au drone piégé dont le président Maduro a été victime. Le portrait d'Ivan Duque est en ligne sur notre site franceinter.fr.
C'est une information que vous révèle France Inter ce matin.
À Paris, Marcel Campion et son marché de Noël seront de retour cet hiver. En conflit avec la maire Anne Hidalgo et mise en examen pour les conditions d'attribution de l'emplacement de sa grande roue, le forain avait été interdit de Champs-Élysées l'an dernier. Mais cette année, il passe au-dessus de l'hôtel de ville avec l'aval, semble-t-il, du gouvernement et sous l'œil bienveillant de l'Élysée. Marcel Campion installera ses stand au jardin des Tuileries. Une petite vengeance aux accents politiques, Laurence Perron.
On le chasse des champs, il revient par les jardins. Le forain Marcel Campion n'est pas peu fier de sa revanche. La maire Anne Hidalgo m'a exclu des Champs-Élysées en prétextant que je faisais dans le Made in China, dit-il. Eh bien là, ce sera 80% de stands français. Ça s'appellera la magie de Noël, il explique, du 24 novembre au 6 janvier. Une énorme attraction. La mairie n'a pas son mot à dire. Le jardin fait partie de l'établissement culturel du Louvre qui a accepté de lui louer l'espace pour près d'1 million d'euros. Campion n'en fait pas mystère. Il est allé plaider sa cause à l'Élysée et au ministère de la Culture, tutelle du Louvre. Il ironise d'ailleurs, l'annulation de l'an dernier, c'est 2000 personnes au chômage. Ça la fout malin hein, quand même pour une mairie socialiste. À l'hôtel de ville, on tombe des nues. Un proche d'Anne Hidalgo lâche. Si c'est le cas, c'est une grosse bêtise pour le gouvernement. Pour Anne Hidalgo, un pied de nez assez cruel aussi. L'Élysée, qui se refuse à tout commentaire, n'a sans doute pas oublié comment la maire avait refusé le Champ de Mars à Emmanuel Macron pour son intronisation, qui s'était du coup tenue au Louvre, précisément.
66, chiffre diabolique pour une canicule infernale. 66 départements français sont en vigilance orange et les orages vont s'en mêler dans le courant de la journée. Le pic de cette canicule est donc attendu aujourd'hui avant une baisse sensible des températures. Cette chaleur et la sécheresse mettent à mal les élevages. Reportage dans une ferme de Mayenne, Margot Assier de France Bleu.
Ici, les prairies sont jaunes et le maïs sèche debout. Pour Christian David, gérant de la ferme du Coudray, le manque de fourrage se fait sentir.
Puis l'herbe, c'est que des paillassons, donc les vaches ne mangent que des produits récoltés pour l'hiver prochain, donc ça prend sur les réserves.
Conséquence de la sécheresse, ces vaches laitières produisent moins de lait et si le fourrage est insuffisant, il va falloir en acheter.
Bon, maïs, peut-être un peu, je sais pas, on va attendre, on va en sceller avant, puis après on va voir, on fera les comptes. Autrement, de la paille, oui, je vais en acheter, mais là, pareil, c'est pas facile à trouver.
Pour la paille, on voit déjà une augmentation du prix pour Jérémy Trémeau, président des jeunes agriculteurs de Mayenne.
Une augmentation de 50%, hein, de 80 à 85 euros à 105 à 115 euros.
Les jeunes agriculteurs de Mayenne ont donc décidé d'organiser avec la FDSEA des opérations paille et fourrage. Philippe Géant, président de la FDSEA.
Voir un approvisionnement, on va dire, important de fourrage et de paille sur notre département, mais aussi à des prix abordables. Nourrir nos animaux, ça ne fonctionnera que si les revenus des agriculteurs suivent.
Pour dédommager ces pertes de revenus, la Commission européenne a donc autorisé jeudi les États membres à aider financièrement les agriculteurs touchés par la sécheresse.
Face à cette situation, des mesures sont prises pour aider les agriculteurs. Le ministre Stéphane Travert a notamment annoncé hier le report de paiement des cotisations sociales auprès des caisses de la mutualité sociale agricole. La pollution à l'ozone persiste à cause de cette chaleur. La circulation différenciée est toujours en place à Paris et dans la région de Lyon. Seuls ont le droit de rouler les véhicules qui affichent une vignette critère inférieure à 4. La canicule touche une bonne partie de l'Europe. Aux Pays-Bas, la chaleur a même arrêté le temps. Les aiguilles de la cathédrale d'Utrecht ne tournent plus. Les rouages qui datent de 1857 sont bloqués. La prison de Fleury-Mérogis connaît une vague de décès sans précédent. 11 morts depuis le début de l'année, dont 10 suicides. C'est autant que tous les décès de l'an dernier dans l'ensemble des établissements pénitentiaires de la région parisienne. La plus grande prison d'Europe affiche un taux d'occupation de 143%. Des militaires, des pompiers, appuyés par des moyens aériens, sont déployés en ce moment au Brésil pour tenter de retrouver un jeune Français disparu lors d'une excursion dans la Sierra de Rio de Janeiro. Âgé de 22 ans, il était parti pour 3 jours mercredi dernier, mais n'a pas donné signe de vie depuis. Un navire avec à son bord 87 migrants fait route en ce moment vers le port espagnol d'Algeciras en Espagne. Le bateau appartient à une ONG espagnole et a secouru ses hommes et ses femmes mercredi dernier dans les eaux internationales face à la Libye. On les dit excellentes pour la santé. Les algues sont à la mode. Elles entrent dans la composition de compléments alimentaires présentés parfois comme des gélules miracles. Ce matin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation rend un rapport sur le sujet et elle met en garde contre l'excès d'iode contenu dans ces algues. Sophie Becherel.
On les pare de toutes les vertus. Bourrées d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, peu caloriques. Du coup, la consommation explose depuis quelques années, en particulier chez les végétaliens, ni viande ni poisson, qui pensent ainsi compenser leur déficit en iode. Attention, met en garde l'ANSES, cette consommation n'est pas anodine. Le professeur Irène Margaretis y est chef de l'unité nutrition.
Les risques liés à la consommation d'algues sous forme de compléments alimentaires ou sous forme d'aliments sont liés au fait que les algues présentent des variations très très importantes de leur teneur en iode, selon les procédés de fabrication, les conditions de production et le type de préparation aussi. Est-ce que c'est une poudre, un extrait, et si elles sont utilisées dans les compléments alimentaires.
Ces quantités d'iode vont du simple au centuple. Or, rien n'est précisé sur les emballages. Le consommateur ne sait donc pas s'il respecte la dose maximale journalière conseillée, 150 microgrammes pour un adulte, 200 pour une femme enceinte ou qui allaite. Le risque est surtout lié à la surconsommation.
En particulier, les personnes chez qui on déconseille vraiment de consommer des aliments et des compléments alimentaires à base d'iode sont bien évidemment les personnes qui présentent déjà un dysfonctionnement thyroïdien, mais aussi une maladie cardiaque ou une insuffisance rénale.
Attention aussi à la vente sur Internet, il n'y a aucune garantie sur l'innocuité des produits.
Des mises en garde à retrouver sur franceinter.fr.
On entre dans le vif du sujet aujourd'hui au championnat d'Europe d'athlétisme à Berlin.
Et parmi les Français très attendus, le décathlonien Kevin Mayer, champion du monde. Il entre en piste dans 1h30, sans pression, même s'il part favori. Un statut qu'il a longtemps gêné, mais qu'il assume désormais. Mayer est le best et il le sait.
Il faut assumer la chose, tout simplement. J'avais du mal à l'assumer avant et je me suis rendu compte que, au final, je l'assumais très bien, que j'ai fait champion du monde avec le statut de favori. Donc voilà, que je rate ou que je réussisse, tout le monde me mettra ce statut et je dois me le mettre aussi et je dois essayer d'aller faire encore mieux avec ce statut. Honnêtement, là, franchement, il peut y avoir des surprises sur pas mal de choses parce que, au poids, j'ai déjà montré, j'ai battu mon record de 50 cm. La longueur, ça vient, je pense que ça peut aller très loin. La hauteur, ça, je pense que ça peut aller très haut aussi. Non, franchement, toutes les épreuves, là, je sens. Mais celle que j'attends peut-être le plus, c'est les haies. Parce que cette année, j'ai fait 3 pas très bonnes courses qui étaient proches de mon record et j'ai battu 1000 fois mon record. Donc, j'aimerais vraiment faire une bonne course et montrer vraiment le temps que je peux faire sur les haies.
Kevin Mayer au micro de Franck Ballanger. À suivre également Jimmy Vico sur 100 mètres. Il dispute les demi-finales à 18h30 et on lui souhaite la finale à 21h50.
C'était le journal de Cécile Bideau sur France Inter.